Merci Huguette, bonsoir à tous. Dieu est trop fort. Alors je vais commencer mon message par un début de phrase qui n'est pas très populaire, que la chair n'aime pas du tout, c'est « il faut que ». Et je m'adresse à vous, à moi aussi, « il faut que ». Et cette phrase, elle se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, où il est dit « car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Il faut que. » En d'autres termes, il faut croire que Dieu existe et croire que Dieu est un rémunérateur, un donateur. En d'autres termes, il faut croire que Dieu existe et que Dieu est bon. Et je ne sais pas si le terme « sévérité » apparaît souvent dans la Bible, mais vous savez qu'à un moment donné, dans l'Épître aux Romains, le terme de sévérité apparaît en lien avec la bonté de Dieu. Et ça, ça m'a vraiment marqué, puisqu'il est dit au chapitre 2, il est dit « considère donc » non, la référence est fausse, mais ce n'est pas grave, écoutez bien « considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. » Et donc, moi, j'en déduis que, quelque part, il y a un point qui est indiscutable pour Dieu, un point où il ne faut pas marchander avec Dieu, il ne faut pas discuter avec lui, où là, c'est très, très clair, où là, on peut même s'exposer à sa sévérité. C'est là où il est, c'est comme s'il était intraitable, c'est « reste par-dessus tout dans ma bonté ». Ne reste attaché à ma bonté, par-dessus tout. Et c'est fort. Et dans un autre passage, il est dit aussi que des personnes méprisent les richesses de sa bonté. Et ça, c'est quelque part le drame de l'humanité, de mépriser les richesses de la bonté divine. Et voilà, cette richesse, quelque part le summum de la richesse, de la bonté de Dieu, c'est la croix. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ça, c'est le drame de notre humanité, de rejeter ce cadeau de Dieu. Et je disais avant que Dieu était trop fort, que Dieu est trop fort, parce qu'on ne s'est pas concerté. Et tu as dit que Dieu faisait des cadeaux. Et moi, le titre de mon message, c'est que Dieu est un donateur et que Dieu faisait des cadeaux. C'est exactement le titre de mon message, mais qui est vraiment foncièrement complémentaire de ce que tu as dit. Mais là, j'ai dit, il y a quelque chose du Saint-Esprit. Dieu est bon, je l'ai noté, Dieu est bon, car Dieu fait des dons. Et je voudrais vous lire un passage d'Ésaïe. Là, j'ai la référence exacte. Chapitre 60, ouais, verset 5, où il est dit, « Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. » Là, il est question du peuple d'Israël dont il était question avant la Sainte Cène. Mais là, j'aimerais qu'on fasse quelque part un parallèle avec notre vie. Et je me dis que si déjà le cœur du peuple d'Israël est appelé à se dilater quand les richesses des nations viendront à lui, à plus forte raison, il est important que notre cœur se dilate lorsqu'il est question de recevoir toutes les richesses de Dieu. Parce qu'il y en a énormément des richesses de Dieu. Des cadeaux de Dieu, il y en a énormément. Mais je crois que c'est important que notre cœur se dilate pour leur faire tout simplement de la place. Et je crois que pour nous, chrétiens, qui sommes peut-être chrétiens depuis des années, des dizaines d'années, on peut parfois avoir un cœur qui commence un peu à se rétrécir. Et on peut commencer à perdre un peu cette saveur du ciel qui nous pousse, qui nous encourage à nous réjouir, à nous émerveiller de toutes ces richesses, la bonté de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'une bonne piqûre de rappel parfois s'avère nécessaire. Et moi, je crois que c'est un des objectifs des fêtes de l'Éternel, c'est voilà, de nous donner une petite piqûre de rappel et de nous rappeler les richesses de Dieu, les bienfaits de Dieu envers nous, et de célébrer le Dieu de l'abondance, ce Dieu qui est riche envers nous. Alors récemment, on a eu la fête de Pâques, enfin récemment, il y a quelques temps de cela, la fête de Pessah, qui est voilà, une fête de la délivrance. Et là, dans quelques jours, on va fêter la fête de Shavuot, donc qui correspond à la Pentecôte. Et cette fête, c'est plutôt une fête de la reconnaissance. Une fête de la reconnaissance, et une fête de la reconnaissance vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis de l'abondance de Dieu, vis-à-vis de la providence de Dieu. Et comme pour beaucoup de fêtes de l'Éternel, il y a une dimension agricole. Et donc à l'époque, les agriculteurs, ils travaillaient semaine après semaine, dur, mais ils n'avaient pas d'emprise sur la météo. Ils avaient besoin de pluie. Il fallait donc que le Seigneur ouvre les cieux et fasse descendre la pluie. Et ce qui est beau, c'est que les Juifs, ils réalisaient leur dépendance étroite envers Dieu, déjà au niveau de leur nourriture. Et donc, à chaque Shabbat, le père de famille brandit du pain et rend grâce en disant, et je trouve que c'est une phrase magnifique, il dit « Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi d'univers, qui fait sortir le pain de la terre. » Et je trouve ça beau. Et donc, dans le cadre de cette fête de Pentecôte, de Shavuot, donc les Juifs, ils apportaient une offrande au temple. Et ben c'était, je crois, dès la première gerbe, hein, je crois que de chaque nouvelle récolte, hein, je crois, on a un spécialiste. Donc ils amenaient une offrande, et une offrande de reconnaissance. Et moi, ça me touche parce que je me dis, plus on est conscient de notre dépendance à Dieu, plus on va être dans la reconnaissance. Et plus on est dans la reconnaissance, plus on va être dans la confiance. Et je me dis, on a vraiment besoin de cela. Et c'est vrai que dans notre monde un peu occidental, on a quand même, je dirais surtout en France, il y a un état un peu providence qui est quand même, qui n'est pas parfait, mais qui fait quand même pas mal de dons, qui soutient aussi financièrement. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cette dépendance vis-à-vis de Dieu, cette reconnaissance et finalement aussi cette confiance. Mais la fête de Shavuot, elle a une autre dimension, bien sûr, que la dimension agricole. Il y a une dimension spirituelle forte. Faut savoir que 50 jours après la Pâque, qu'est-ce qui a été donné ? Donné, voilà. Qu'est-ce qui a été donné à Moïse ? La Torah. Et donc, on commémore le don de la Torah. Et pour les Juifs, c'est un moment extrêmement important parce que c'est comme s'ils allaient renouveler l'acceptation de ce cadeau. Ils font ça chaque année. Pour eux, c'est le don de la Torah, ça correspond même à pratiquement à un mariage entre Dieu et le peuple juif. Donc, les Juifs ont fêté Shavuot, ben, ça aura lieu jeudi, oui, dans quelques jours. Et donc, pour nous, ben, ça sera ce week-end. Et donc, quel état d'esprit est-on appelé à avoir, même dans le cadre de cette fête de Pentecôte, mais j'ai envie de dire aussi pour notre vie de manière générale, donc je l'ai déjà dit, je crois que ça c'est important, la reconnaissance pour le Dieu d'abondance que nous avons. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Il est dit dans 1 Timothée 6, 17, il est question de Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il donne avec abondance toutes choses. Et dans Philippiens 4, 19, il est dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Donc soyez reconnaissants déjà bien sûr pour la nourriture terrestre, pour nos biens matériels. Mais je crois qu'il faut aussi être reconnaissant pour cette nourriture spirituelle que Dieu nous donne, et il nous la donne même de différentes manières. Éphésiens 1, 3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. » Donc, voyez, il y a cette notion d'absolu, tout, tout, tout. Donc, Dieu donne déjà en abondance et donne tout en abondance. Donc, à nous d'être dans la reconnaissance. Déjà, qu'est-ce que Dieu donne, ce Dieu qui fait des cadeaux ? Déjà, la Bible nous dit qu'il nous donne la vie, le souffle, le mouvement et l'être. Et c'est beau quand on songe à ça, chaque respiration que je fais, je la dois à Dieu. Est-ce qu'on est conscient de cela? On dit, oh ben c'est évident. Ces derniers temps, j'ai des problèmes de respiration. Et là, je dis, waouh. Je dis, non, mais Seigneur, c'est toi qui me donnes la respiration. Donc, je respire, c'est grâce à toi. Donc, il nous donne le mouvement aussi. Dernièrement, avec mes élèves, on a vu les activités de loisirs, les sports et tout ça. Qu'est-ce que vous aimez comme sport? Je les ai fait un peu bouger. Et je leur dis, ouais, tout ça, c'est un cadeau de Dieu. Il nous donne le mouvement. Le mouvement. C'est un magnifique cadeau de Dieu. Ensuite, il nous donne, bien sûr, sa parole. Et il est possible aussi qu'à l'époque de l'Église primitive, les disciples, donc à la Pentecôte, qui passaient la nuit à étudier la Torah. Et là, on peut imaginer les apôtres qui étaient dans l'attente du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont lu la nuit là? Qu'est-ce qu'ils ont lu? Qu'est-ce qu'ils ont étudié dans la Torah? On peut même se dire qu'ils ont peut-être lu des passages qui parlent de la promesse de l'envoi du Saint-Esprit. En tout cas, quand je disais d'état d'esprit, je parlais d'état d'esprit à avoir. Je crois que c'est important de se nourrir de la parole, et ça on le dit, on le redit. Se nourrir non seulement de la parole de Dieu, de sa Torah, donc qu'il nous a offerte, comme un cadeau qu'on ouvre, qu'on déballe, mais c'est aussi de se nourrir de ses promesses, de mémoriser les promesses d'un côté, mais aussi de voir comment les promesses se réalisent, comment elles s'actualisent de nos jours. Ça, c'est une de mes passions, c'est de voir comment Dieu agit encore dans nos vies concrètes, au quotidien, quels sont les miracles, les signes qu'il fait, comment il agit dans la vie des gens, les guérisons physiques, les guérisons mentales, les guérisons spirituelles. Et je crois que c'est important aussi à passer du temps à lire, par exemple, des histoires de réveil de l'Église, parce que à partir du moment où on se plonge dans des récits comme ça, eh ben, c'est comme si on proclamait que les promesses de Dieu, eh ben, ce que Dieu a fait quelque part, il peut le faire. Dans ma vie, il peut le faire dans ta vie. Et ça, c'est vraiment important, parce que ça gonfle notre foi quelque part, ça augmente notre foi. Donc la dimension des témoignages, je trouve qu'elle est importante. Qu'est-ce qui nous donne, bien sûr, la vie, nous donne le salut, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La parole faite chair. Que dit justement le Fils de Dieu? Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que Dieu va vous donner le Saint-Esprit, Dieu va vous donner. On est tout le temps dans le don. Saint la Trinité, on est tout le temps dans le don. Il y a aussi un passage fort que j'ai relevé en lien avec le cadeau. C'est Christ est devenu malédiction pour nous, afin que, donc pourquoi il est devenu malédiction pour nous? Afin que nous recevions, cadeau, par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il a été fait malédiction pour nous pour qu'on reçoive l'Esprit. C'est ce qu'on commémore, c'est ce qu'on va commémorer le week-end prochain à la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint. Christ a été fait malédiction pour qu'on reçoive l'Esprit par la foi. Et là, il y a vraiment des raisons d'être reconnaissant. Et d'ailleurs, j'ai aussi réalisé que sans le Saint-Esprit qui nous a été envoyé, on ne pourrait même pas savoir ce que Dieu nous a donné. Et c'est un passage, vous savez, parfois on lit des passages, il faudrait tilt, ah, c'est comme pour en avant. Ah tiens, j'avais jamais vu ça auparavant. Regardez, lisez. Écoutez, 1 Corinthiens 2:12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que. Pourquoi on a reçu l'Esprit? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. C'est fort ça. Moi, j'avais jamais capté ça. L'Esprit est venu aussi pour qu'on puisse reconnaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Sinon, on ne pourrait même pas les reconnaître. Ça, c'est fort. Un autre passage qui montre aussi à quel point le don du Saint-Esprit est important et couvre quelque part tous nos besoins. Lorsqu'il est question dans deux passages de l'Évangile de mauvais père et d'un bon père, enfin, de mauvais pères, de pères humains qui sont imparfaits, comme moi je le suis, et du Père Céleste qui est parfait. Et là, il est dit, par exemple, c'est dans Matthieu 7, 11, « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Donnera-t-il de bonnes choses ? Et on a un verset un peu parallèle dans Luc 11, 13. Il est dit, « Si donc, méchant comme vous l'êtes, imparfait, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, nouveau dans le don, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et là, j'ai vu un parallèle entre le fait de donner de bonnes choses et le Saint-Esprit. Et donc, on va voir que le don du Saint-Esprit, ça englobe une pléthore une palette de choses dont on a besoin au quotidien. Déjà, est-ce que vous saviez que dans le cas du sacrifice du Christ, l'Esprit a eu un rôle à jouer ? Vous saviez ça ? Lorsque Christ a été sacrifié à la croix, l'Esprit Saint a joué un rôle là-dedans. L'Esprit Saint a agi. Comment ? En tout cas, il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, « Le sang de Christ qui s'est offert par un esprit éternel, sans tâche à Dieu. » Donc, l'Esprit Saint avait déjà un rôle au niveau du sacrifice. Ensuite, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il nous apporte ? Qu'est-ce qu'il nous donne ? On est dans le don. L'Esprit Saint nous apporte la rédemption. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » L'Esprit Saint, il a un rôle à jouer dans l'accès que nous avons quelque part à Dieu. Par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ensuite, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit il a un rôle à jouer au niveau de notre sanctification ? Je ne vais pas donner tous les passages, mais il est dit par exemple que les païens, que Paul a évangélisé des païens et qu'ils ont été une offrande agréable à Dieu, sanctifiée par l'Esprit Saint. Ensuite, c'est Anne qui l'a dit à la Sainte Cène, Dieu a écrit sa Torah dans nos cœurs et le Saint-Esprit nous est offert afin qu'on puisse obéir à cette Torah. Il est dit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un esprit nouveau, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. » Donc l'esprit nous aide à obéir. L'esprit aussi nous donne la paix, comme il est dit dans Romains 8, 6, « L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » L'esprit nous apporte aussi la vérité. Jean 16, 13, c'est un esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Vous voyez, il y a toujours cette notion d'absolu qui m'a frappé. Il conduit dans toute la vérité. Ce n'est pas un tout petit peu. Et à l'époque aussi, donc comme les agriculteurs, les paysans en Israël, ils étaient tributaires de la pluie, j'ai envie de dire que notre cœur, notre âme, est aussi tributaire de la pluie du Saint-Esprit. Notre cœur qui est sec de par nature, parce que de nous-mêmes, on ne peut rien faire. Et on a bien sûr ces magnifiques fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, qui sont là et qui sont des fruits, pas nos fruits, mais les fruits de l'esprit en nous. L'esprit est aussi un esprit d'adoption. Il nous donne l'adoption. Vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». L'esprit nous donne l'adoption. L'esprit aussi nous guide. Si vous voyez le livre des actes, mais le Saint-Esprit, c'est le GPS parfait. Il leur dit, voilà, n'allez pas à tel endroit, mais allez à tel endroit. Parlez à un tel, et ainsi de suite. Et vous savez, l'esprit est vivant. Et en ce moment, ça fait depuis quelques semaines ce que je vis. Je vis que Dieu transforme l'improbable en probable. On a vraiment le Dieu du probable. Et dernièrement, j'ai assisté à un match de foot de mon fils, et j'étais assis là dans les gradins, et j'ai eu une personne qui m'est venue, et un événement que j'ai vécu avec cette personne il y a des années en arrière, 5, 6 ans. Et j'ai eu toute une réflexion au sujet de cette personne. Okay. Vous voyez, parfois, voilà, vous perdez dans les pensées. Mais il y a une personne qui est venue à ce moment-là, tout en regardant le match. Et ensuite, quand on est parti, j'ai dit à mon fils, viens, on va encore faire des courses, on va à un supermarché. On arrive, la route est bloquée. Des pompiers partout. Je m'approche et qui je vois cette personne à qui j'ai pensé, qui est en train de discuter avec des gendarmes, avec des pompiers, sa voiture complètement bousillée de côté, ses trois enfants à l'intérieur. Et je suis allé là-bas, je suis tout de suite allé chez ses enfants parce qu'ils étaient à quel, ils étaient seuls. Il a aussi un enfant en bas âge. Et ils étaient tout seuls, livrés à eux-mêmes. Et je me suis occupé de ses enfants, il m'a vu, il m'a aperçu. Et ensuite, voilà, je les ai conduits chez eux. Mais la leçon que j'en ai gardée quelque part, c'est sois attentif déjà à ma voix. Et c'est un Pierre qui nous dit, tu es appelé à être un instrument de bénédiction. Ne te casse pas la tête au sujet de choses peut-être qui ont été douloureuses dans le passé. Pardonne et bénis. Bénis, tu es appelé à bénir. Et ça, ça m'a vraiment frappé. Le Saint-Esprit aussi nous fortifie. Qui a besoin de force ? Il est dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, Dieu est riche et Dieu est bon et Dieu est généreux, d'être puissamment fortifié par son esprit. Et vous savez que le Saint-Esprit, il fait tellement de choses, il nous aide même à prier. Vous voyez, c'est des petits rappels, mais j'ai envie de dire, c'est des piqûres de rappel pour qu'on puisse de nouveau saisir la grandeur de Dieu, la grandeur de son esprit qui agit en nous et parmi nous. Il est dit dans Jude 1, 20, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. On peut prier par le Saint-Esprit, c'est-à-dire on peut prier sans le Saint-Esprit, et on peut prier par le Saint-Esprit. Et Romains 8, 26, où il est dit aussi, de même ici, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et ainsi de suite. Dieu, par son Esprit, donne aussi des visions et des songes, donc d'après le passage de Joël, que les disciples ont peut-être lu à la Pentecôte, en attendant le Saint-Esprit, où il est question voilà, de cette effusion du Saint-Esprit sur toute chair. Et moi, ça m'a fait penser à ce que j'ai vécu dernièrement aussi, dans un rêve, où j'ai vu une ancienne élève que j'ai eue il y a dix ans. Et dans ce rêve, j'étais dans une grande salle et il y avait de la louange et des chrétiens et je me suis mis à pleurer fortement alors que je n'étais pas en contact avec cet ancien élève. Mais j'ai pleuré, je n'arrêtais pas de pleurer dans ce rêve et j'ai intercédé pour que cet ancien élève loue le Seigneur. Et ensuite, j'ai écrit aussi à sa maman, elle confirmait que ça venait vraiment de Dieu et que c'était vraiment important de la soutenir dans la prière. Donc Dieu parle, son esprit parle, Dieu donne des rêves et c'est important d'y accorder toute notre attention. Et bien sûr, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Il y a les fruits, mais il y a les dons du Saint-Esprit. Et je ne vais pas les énumérer. Et bien sûr, le don dont on parle souvent, moi je le trouve tellement précieux. Tous les dons sont précieux, mais c'est le don de parole, de connaissance, où c'est l'Esprit qui vous révèle quelque chose que vous ne pouvez pas savoir au sujet d'une personne, des secrets de la personne, des choses passées, des blessures qui montrent que Dieu est un bon père et qu'il prend soin et qu'il est tout à fait conscient aussi de nos souffrances, même les plus secrètes. Et j'aime lire des témoignages aussi de paroles de connaissance. Et ben, dernièrement, j'en ai eu une sans faire exprès. J'étais... là au-dessus, vous voyez, cours d'allemand sur Albert Einstein, rien à voir, vous voyez, j'étais pas du tout dans cette optique-là, et je devais expliquer le mot date de naissance à un élève, et donc je disais en allemand, et je dis, vous voyez, mais la date de naissance, c'est comme si je disais par exemple que toi, Nathanaël, tu étais né le 15 avril, et il me regarde, et il dit, monsieur, mais c'est vrai. J'aurais dit, voilà, une chance sur 365. D'accord ? Mais moi, ça m'a vraiment encouragé, parce que c'est comme si Dieu m'envoyait un encore, je me dis, ouvre ta bouche, ouvrons notre bouche, parce que l'Esprit nous a été envoyé pour qu'on manifeste ses fruits et ses dons, ouvrons notre bouche, on a notre part à faire pour le glorifier et pour faire connaître son amour de Père aux personnes qui ne le connaissent pas. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait encore ? Il fait croître l'Église. Il est dit dans Actes 9, 31, que l'Église grandissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il est dit aussi que le Saint-Esprit amenait la puissance. Il est question de puissance du Saint-Esprit. Donc, là, voilà, c'est juste un petit tableau. Il y aura encore tant de choses à dire sur le Saint-Esprit. Mais juste pour vous dire, enfin, j'aurais envie de dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit ne nous donne pas, quelque part ? J'ai envie de tourner la question comme ça. Qu'est-ce que Saint-Esprit ne fait pas pour nous? Il couvre vraiment tous nos besoins et il fait de nous, il couvre nos besoins et fait de nous des instruments de bénédiction pour les autres, ce qui est encore plus important. Donc, quel pourrait être notre état d'esprit pour la Pentecôte? J'ai envie de dire, célébrer l'abondance de Dieu, cette abondance naturelle, mais aussi spirituelle, faire preuve de reconnaissance, et donc déjà être conscient de notre dépendance, manifester notre reconnaissance pour tout ce qu'il nous donne, et cette reconnaissance va faire grandir notre confiance, et cette confiance va engendrer aussi de la persévérance de notre part. Et qu'est-ce que j'ai été touché par ce chant-là qu'on a chanté avant, là, comme un je suis embrassé comme un aigle en feu. Et je ne sais pas si on peut le reprendre après, mais il y avait quelque chose de fort, parce que j'ai envie de dire, en vue de la Pentecôte, préparons un bois prêt à être consumé par le feu. C'est ce que j'ai noté. Je voyais ça, préparons un bois prêt à être consumé par le feu. Dieu est bon et Dieu fait des dons. Et c'est vrai qu'on passe par des temps qui ne sont pas faciles, mais je me suis souvenu de Moïse. Vous voyez, Moïse, il était face à plusieurs aussi, à plusieurs pressions extérieures, mais aussi internes, n'était pas sûr de lui, des pressions extérieures fortes. Et il aurait pu être séduit aussi par son statut aussi à la cour d'Égypte. Mais la Bible dit qu'il a préféré, quelque part refuser la jouissance du péché et suivre quelque part les directives de Dieu. Pourquoi ? Et ça m'a aussi touché, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Parce qu'il avait les yeux fixés sur le Dieu rémunérateur, sur Dieu qui est bon, sur la bonté de Dieu. Et je crois que c'est vraiment important qu'on ait les yeux fixés sur le Dieu rémunérateur. Qu'est-ce que disait Ésaïe 65 ? Tu te réjouiras, tu tressailliras, ton cœur bondira et se dilatera. Et je crois qu'un cœur qui bondit de joie, un cœur reconnaissant qui bondit, c'est un cœur qui agit. Un cœur qui se dilate, un cœur qui bondit, c'est un cœur qui agit. Et je suis aussi, sans en faire une règle ou au niveau statistique, mais j'ai remarqué aussi que dans les milieux charismatiques aussi, beaucoup d'adorateurs créent des œuvres, notamment des écoles. C'est des adorateurs, dans la louange aussi, qui se lèvent pour créer aussi des œuvres associatives, comme des écoles chrétiennes, par exemple. Pourquoi ? Parce que le cœur, il bondit, le cœur est là, et un cœur qui bondit est un cœur qui agit. Et pour terminer encore, un passage qui me paraissait important, qui se trouve dans Éphésiens 5, verset 1, qu'on peut peut-être afficher. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Imitez Dieu. Donc, Dieu est bon, soyons bons. Dieu fait des dons. Donnons aussi. Donnons de notre personne. Donnons-nous pour les autres. Mais j'aime bien ce qui est précisé, comme des enfants bien-aimés. Il y a quelqu'un, un pasteur, qui racontait l'anecdote suivante. Il a dit qu'un jour, dans une prison, il y avait, c'est bientôt, je crois, la fête des mères. C'est le 4 juin, non ? Je ne dis pas de bêtises. C'est bien. Il y avait la fête des mères et ils avaient confectionné des cartes. Et toutes les cartes ont été achetées par les prisonniers. Ils se sont dit, oh là 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 là, ils s'étaient mis en rupture de stock. Ils se sont dit, on va faire la même chose pour les papas. Alors voilà, il faut du stock. Les cartes se sont mal vendues. La fête des pères. Et là, on voit vraiment qu'il y a un enjeu, c'est aussi l'image du Père. Et c'est ça aussi un des drames, c'est que beaucoup créent Dieu à leur image, quelque part, ou à l'image de ce qu'ils ont vécu, et à l'image parfois aussi de leur propre Père. Alors que c'est important d'avoir la révélation du Père Céleste, indépendamment aussi de ce qu'on a vécu. Avec nos pères qui étaient bien sûr imparfaits. Donc vraiment, c'est un fondement à avoir cette révélation de l'amour et de la bonté du Père. Il faut croire que Dieu existe et qu'il est bon. Est-ce que le week-end prochain, on va attendre le Saint-Esprit ? On ne va pas attendre le Saint-Esprit, on va s'attendre au Saint-Esprit. On n'a plus besoin de l'attendre, mais que Dieu trouve simplement en nous des cœurs ouverts, réceptifs, et des cœurs qui bondissent, des cœurs qui agissent, des cœurs qui veulent l'imiter. Qui veulent imiter Dieu et pas limiter Dieu. D'accord, on est bien d'accord. 1 Timothée 6, 17, il est dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » J'aime bien la suite. « Recommande-leur de faire du bien, ça nous parle aussi à nous, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Et ça m'a frappé aussi, la vie véritable. Est-ce que tu veux vivre une vie illusionnelle ou la vie véritable ? Eh bien, la vie véritable, c'est quand tu te donnes. C'est quand tu imites Dieu, quand tu te donnes comme le Fils s'est donné à la croix. Juste un petit témoignage, et après j'aurai vraiment terminé, qui m'a un peu touché. Enfin, même beaucoup touché, qui concerne mon fils Evan. Et il y a quelques années, parce qu'on est, vous voyez, on est appelé à être des enfants de lumière. Et le fruit de la lumière, nous dit la Bible, c'est la bonté, la justice, la vérité. On est appelé à être bon. Il y a quelques années, il voulait intégrer le club de foot qui se trouve juste à deux pas de chez nous. Je suis allé avec lui chez l'entraîneur. L'entraîneur dit oh, moi, je recrute entre 0 et 1 joueur. Cette année. Bon, ça ne fait pas beaucoup. 0 et 1, ça voulait dire que ce n'est vraiment pas sûr. Et finalement, il a fait un essai, il a été pris. Et tout au long de ces années, j'ai encouragé Evan à prier pour son équipe, à bénir son équipe, à bénir son entraîneur, à bénir ses adversaires. Récemment, il est même parti en Espagne et il disait « Papa, moi j'ai prié pour les joueurs qui étaient blessés. » Et il était attaquant aussi. Et vous savez, dans le foot, la plupart du temps, c'est les stars, les attaquants. C'est eux qui marquent des buts et ainsi de suite. Et il était attaquant et l'entraîneur lui a dit « Non, je vais te mettre en défense, tu vas défendre. » Et lui, il était, et je trouvais ça super, alors qu'il aurait pu faire de belles choses en tant qu'attaquant. Il dit « Moi, j'accepte ce que l'entraîneur dit. » Il était très content, il est devenu défenseur central. Donc je me dis, il défend et en même temps, il défend son équipe aussi dans la foi. Et c'est produit hier après-midi. Et pourquoi je vous raconte ça ? Ce n'est pas pour quelque part raconter les exploits de nos enfants, ce n'est pas ça, mais parce que j'en ai tiré une leçon. Et hier après-midi, c'était un match très important. Vous savez, pour certains, même ça va un peu trop loin, certains parents ont l'impression que le foot, c'est une religion. Et en tout cas, c'était un match décisif pour gagner le championnat. Et à un moment donné, lui, ce qu'il fait, et on va le voir, c'est que même l'entraîneur, il a fait quelque. Je vous ai dit que Dieu, c'est vraiment le Dieu qui transforme l'improbable en chose probable. Il a fait quelque chose d'improbable, mais il voulait même pas. Il voulait faire une passe. Vous voyez, il voulait servir son équipe et il a fait quelque chose d'improbable. Et même l'entraîneur, donc l'a posté sur les réseaux sociaux. Et moi, ça m'a vraiment parlé parce que vous savez que la racine du verbe pécher, commettre un péché, c'est rater la cible. Et lui, ce qu'il a fait, c'est ça la leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il voulait faire une passe, il voulait servir son équipe, et en servant, il a marqué un but, et quelque part, marquer un but, pour moi, c'est bénir, être un instrument de bénédiction pour les autres. On est vraiment appelé à être ça. Alors, je ne sais pas si... Ah ben voilà. Donc, vas-y. Donc là, Evan s'élance. Vous voyez, il va faire la passe. Et tu peux peut-être la remettre parce que c'est un peu petit. Donc là, regardez là, hop. Donc il a fait un but de je ne sais pas combien de mètres. Je ne suis pas très bon en géographie. Mais regardez, et en faisant une passe, il a mis le but décisif. C'est le but décisif qui a... Mais... qui a amené la victoire et peut-être même le titre. Vous voyez, mais quelque part, je trouvais que c'était une belle leçon. En tout cas, moi, j'en ai tiré une belle leçon pour moi. C'est quand tu bénis, tu veux être là pour servir, pour bénir, ben Dieu peut faire des choses extraordinaires à travers toi. Et c'est le Seigneur qu'on veut glorifier. Et dernier verset. « Ne crains point, petit troupeau. » Luc 12, 32. « Ne crains point. » On est tellement exposé à différentes sortes de craintes, n'est-ce pas ? Ça va tellement vite. « Ne crains point, petit troupeau. » Car votre Père a trouvé bon. On est nouveau dans la bonté de Dieu. De quoi ? De vous donner. On est nouveau dans le don, de vous donner le royaume. Là, on est nouveau dans l'absolu de Dieu. Il nous donne le royaume. Dieu nous donne son royaume parce qu'il a trouvé que c'était bon de nous donner son royaume. Et vous savez ce que faisaient aussi les Juifs à la fête de Shavuot ? Ils faisaient des offrandes volontaires. Et là, il est dit, tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Vous voyez ? Donne parce que Dieu t'a béni, parce que Dieu t'a donné. Donne aussi. Et il est dit ensuite, dans le Deutéronome, juste après, tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu te réjouiras d'avoir reçu et d'avoir donné. Et ça, c'est vraiment notre destinée. Donc, réjouissons-nous vraiment en espérance pour la suite, à titre individuel, à titre familial, au niveau de l'Église Josué, comme Alice l'a vu, comme Elisa l'avait aussi confirmé à travers un rêve. On est en marche, on gravit une montagne, mais on peut vraiment se réjouir en espérance de ce qui nous attend. Parce que Dieu est bon. Dieu fait des dons et soyons donc dans la reconnaissance, dans une extrême dépendance, une extrême reconnaissance, une extrême confiance et une extrême persévérance. Amen. À Dieu toute la gloire. Amen.